Bonjour, monsieur Quico. Bonjour, monsieur Quico.
Bonjour, monsieur Fourès.
On vous appelle, je crois.
Le tableau célèbre.
Oui, bien sûr. Vous écoutez ça toute la journée, là ?
Pendant et avant une saison d'enfer, et quelques autres écrites après, ce qui montre que Rimbaud n'avait abandonné que sa vision transformatrice du monde, mais qu'il avait...
Vous êtes très cultivé, hein, vous devez être très cultivé.
Des noms de sa pensée.
Ou très musicalisé.
Et on a un test qui serait très aventureux de dater les illuminations. Les pires illuminations.
Ça avance, hein.
Oui. Alors, ça va être comme ça. Sauf que c'est d'une fragilité à toute épreuve maintenant.
C'est une très jolie maquette quand même.
C'est un peu cochon ça. J'ai fait hier soir moitié endormi.
Tu avais trop mangé hier. Et ça, ça c'est pas.
Et ça c'est. Oui, mais ça servira pas, mais ça fait rien. Ça l'amuse.
Si, il fait ça parce qu'il est en retard.
Non, il fait ça parce qu'il trouve que c'est joli. Ça inquiète complètement d'autres mecs qui se disent « Mais pourquoi il fait ça? On pourra pas l'utiliser. Qu'est-ce que je vais en faire ?» Il faut lui dire. Bon, ça fait rien. Ça sera une autre possibilité.
C'est vrai que c'est très joli. Personne n'écoute cette radio, finalement.
Non, mais ça nous tient compagnie.
Elle marche.
Ça nous rassure. De temps en temps, ils disent des choses qu'on arrive à comprendre, alors on dit que c'est mieux.
Vous avez bientôt fini, là.
Oui, enfin, je trouve que c'est bien. C'est fini. La chose. On a fini les délibérations. On est d'accord sur tout, maintenant.
Avec Quico.
Ouais.
Et d'autres mets.
D'autres mets, on verra.
D'accord.
Mais il est un peu fou, alors. Il n'a pas encore téléphoné aujourd'hui, c'est étonnant.
Mais il va téléphoner.
C'est sûr.
Il téléphone tous les jours et tous les jours. Je lui dis, hier on a mangé du cassoulet. Tu vois, la veille, tiens, on a mangé des miques. Et demain, je lui dirai, tiens, on a mangé du rôti à la brésilienne. Parce que c'est ce soir le soir du rôti à la brésilienne.
Ah bon ?
Et oui, qu'on profite de l'absence momentanée de Quico pour faire un fabuleux rôti. Ce qui est évidemment pas très gentil. Et on profitera aussi de son absence pour terminer ses décors.
C'est possible. Qu'est-ce que tu comptes faire de cette bande?
Je sais pas. Une émission peut-être. Tiens, il y a du Ravel là. Pourquoi ce serait rigolo, non, de faire une émission avec ça?
Une journée du Pouget.
Une journée du Pouget. Alors il m'a dit bonjour, monsieur Fourès, ce matin. Je trouve que c'est une belle citation, tu crois pas?
transsurale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la transagglomérale. Le projet pictural est né en même temps que le projet musical. Alors effectivement, c'est les musiques punk et autres. Mais c'est une sensibilité à l'expression musicale qui naît en même temps. Et ils sont parfois, je pense à des gens comme Combas, ils sont parfois à la fois musiciens et peintres, avec toutes les guillemets qu'on peut mettre à l'un et à l'autre. Mais c'est peut-être c'est pas la première fois que ce problème-là, que ce rapport-là se pose. Et moi, j'ai tendance à préférer les gens qui parlent.
Oui, la musique, c'est à côté, quoi. C'est Marinette.
C'est un autre rayon, oui. On se communique des informations. Quand il y a Fourès qui parle, il pousse des cris, ou moins. La Fourès, à la radio, à France Musique. Eh merde! On n'entend que lui. Il est le seul à pas s'en plaindre. Hein.
Mais j'ai rien dit.
Ben c'est bien ce que je
J'ai rien dit parce que tu t'es trompé de radio. Je suis pas un intellectuel.
Ça, c'est pas parce que tu fais bien le cassoulet que tu es pas un intellectuel. Ça, c'est une des vieilles légendes à laquelle on ne me prendra pas. Tu as une manière de faire le cassoulet qui est celle d'un intellectuel.
Tu crois ça?
Oui, c'est de l'ethno-cassoulet. Moi, je me laisse pas prendre. Je le trouve très bon, mais c'est de l'ethno-cassoulet. De la même manière que moi, je vous fais du café journal.
Oui, c'est différent. C'est un café de mémorialiste.
Ouais. Il faut que le café du dernier jour renferme
un peu du café du premier.
Un peu du café du premier jour. Donc, il suffit de ne pas laver la cafetière.
C'est comme l'amour, quoi.
Comme l'amour, je comprends moins.
Tu comprends moins. L'amour du dernier jour renferme un peu du premier.
Ah, oui, tiens, j'avais pas pensé.
C'est joli, sauf que je ne peux pas dire qu'il suffit de ne pas laver les cafetières.
Ah, c'est plus étrange.
Mais c'est très bien le son ici, c'est très très joli.
Mais on peut enlever ces histoires-là parce que ça va continuer encore. Il parle de la Palestine. Alors, la même émission, ils la passeront l'année prochaine et ça sera toujours vrai.
Ça va durer longtemps.
Non, hélas.
De toute façon, moi j'aurai plus de bande. Hein. Donc je vais devoir m'arrêter. Tu vois? Et en fait, peut-être que je ne la garderai pas.
Ouais. Qu'est-ce que tu dis que tu la garderas pas?
Et non, je sais pas, il y a des petits problèmes.
Ouais. Comment
ça, c'est magnifique.
Qu'est-ce qui est magnifique?
Ce petit bout là, ce petit gris qui est en
train. L'autre.
Oui, celui-là là. Ah oui, ça c'est très bien.
Bon, on fait comme ça. Et après, on vient un peu casser la graine à la maison. Alors donc, c'est plutôt pas désagréable. Oui, là, essaye quand même. Essaye parce qu'on marquerait même sur le carnet une date pour Paris. D'accord. Alors, peut-être demain soir, je t'espère. Salut. Au revoir. J'ai mal commencé. Mais
oui,
il a la même voix que Pernamon, une voix,
oh,
une voix de...
Non, mais quand j'ai dit quelqu'un, c'est toi, parce que tu fais des confusions, mais aussi c'est lui, parce que c'est quand même le grand personnage qui s'est mis placé comme ça, tu vois.
Non, mais je l'appelle, on me donne son numéro, et au moment où il décroche, j'ai comme voix la voix de son ennemi personnel. Alors je suis pris dans un dilemme complet, et je suis persuadé que j'ai affaire à son ennemi. Alors je déblaye le terrain en disant « Allô, c'est toi Michel, je te remercie de m'avoir fait un reportage cet été. » Mais la réalité des choses, c'est que lui aurait souhaité faire ce reportage. Donc j'ai fait la confusion, j'ai redoublé la confusion en le remerciant pour un reportage qu'il aurait aimé faire et que son ennemi a fait. Et j'ai pas su débrayer, j'ai pas su plaquer de l'humour sur une situation si tragique.
Tu as bien fait.
Oui. Je vais travailler.
À tout à l'heure.
Au revoir, mon vieux. Pardon ? Wilmar a une heure.
Et il est l'heure de préparer le repas.
Le préparer, je sais pas, le manger, oui.
On va faire ça.
Un cassoulet ?
Un énorme cassoulet. On t'appelle après. C'est très joli le décor inutile là. What on a vu, paraît-il, un décor inutile.
Qu'est-ce que vous appelez?
C'est-à-dire un truc que tu as fait qui est très joli mais qui ne servira pas.
Mais où?
Ben, à notre atelier.
Le décor que Jacques est en train de...
Petit bout que tu as peint.
Le décor qui
s'est peint.
Ah.
Petit bout que tu as peint. C'est très très joli.
L'expert dit encore plus fragile.
Il y en aura d'autres. C'est comme ça. Inutile.
Je suis...
De toute façon, même ceux qui serviront sont inutiles.
Comme le théâtre est inutile et la peinture est
inutile. D'accord, donc ce que nous faisons ne sera rien. On arrête. C'est occupé par un gong que notre Brésilien national
les vêtements,
fait sonner le plus fort possible.
Où est-ce qu'il est?
Et la soutane de Curedar se soulève chaque fois que le gong...
Dis-moi, il y a une affiche, peut-être là-bas j'aurai le programme et tout.
Quoi?
On sort,
c'est...
Je
crois qu'il est où, lui.
Pourquoi?
Tu veux le programme?
Il est malade?
Tu peux pas lui donner pour l'écrire le programme?
C'est la sieste?
Oui, elle disait j'en ai un et elle a pas voulu.
Écris-lui si on
en avait un truc de programme.
C'est pas maladie.
Oui, bien sûr.
C'est aussi une maladie.
Alors, première partie, Cueco.
Je me suis levée deux fois pour te lever mieux et tu n'es pas suivi de parler.
Troisième partie, Cueco, Ibis, Cueco, et une exposition, Cueco, présentée par
Cueco.
De Pays Paysages, secrétaire général, Cueco.
Excusez-moi, monsieur. On coupe et on recommence. Thank you.
depuis 5 ans. L'association PEI Paysage organise une manifestation de musique actuelle. Notez au passage que le piège de la contemporanéité a été judicieusement évité. Il n'est pas occulté, comme je c'est actuel.
Qu'est-ce qu'il veut encore du tout?
Cette année, un concert de musique originale, notée originale, qui n'est pas tout à fait musique inédite, création, mais originale, c'est à la fois un adjectif en fait, original. En présence de deux des compositeurs, notez aussi la subtilité, deux des compositeurs, pour aller à la chapelle Notre-Dame à Uzerche, notez bien la subtilité, Notre-Dame. Le samedi 20 septembre à 21h. Notez aussi la subtilité. On peut mettre 20h30. Non, 21h.
Surtout que c'est le 10 septembre.
Ah oui, merde. Ils sont bourrés. On va avoir du monde. Et le 10 et le 20. Ils ont foutu le 20 septembre sur le papier.
Mais ça a été modifié. Ben.
Ah bon, oui. Chacun des concerts est construit à partir du rapport à l'espace sonore vivant. Comprenne qui pourra. Paysage, nature et habitants. On n'a rien oublié, c'est le chat. Faut tout recommencer. L'identité d'un lieu de vie, sa tradition même, deviennent les matériaux de l'expression musicale. Les œuvres ainsi produites sont à la fois savantes et complexes. Ça vous fait rire, vous? Savantes et complexes, c'est pas, ça peut être complexe sans être savant. La complexité, c'est pas forcément la science. On pourrait dire même qu'il s'énonce clairement, etc. etc.
C'est l'inverse.
Et l'inverse. Donc, savant et complexe, c'est possible de le dire.
La richesse ne l'aurait pas laissé passer. Mm-hmm.
Et en même temps, direct et immédiatement saisissable par chacun. Vous notez
l'image.
Saisissable par chacun. Ça veut dire que la saisie de groupe n'est pas niée, mais qu'il faut quand même que la proposition individuelle soit le résultat final. Et c'est la somme des appropriations individuelles qui fait une appropriation collective.
Pas l'inverse.
Pas l'inverse. Exemple. La fascination collective. Les gens qui chantent des chants fascistes sont dans le cadre d'une appropriation collective. Et dans l'ordre de la fascination, c'est-à-dire de la mort, sans appropriation individuelle. Et c'est l'appropriation individuelle qui doit amener à l'appropriation collective.
Mais vous le laissez continuer l'inverse. Comme ça l'inverse, de l'après-midi.
C'est la mort. C'est clair. C'est derrière ça, un texte aussi élémentaire est sous-tendu par une question philosophique élaborée. Jusqu'à ce jour, les petits concerts d'Uzerche, ça c'est une...
C'est joli.
Une affectée, je reconnais. ont rassemblé un public fervent, remplissant chaque année le lieu où ils ont été produits.
Ça, on n'est pas obligé de dire que c'était pas...
C'était dans un blague.
C'est donc à cette manifestation annuelle de musique d'aujourd'hui, encore une autre manière de ne pas parler de contemporanéité d'une manière assez simple, que nous vous convions. Nous espérons que vos multiples activités vous laisseront le loisir de vous joindre à nous et nous vous prions de croire à l'assurance de nos sentiments les meilleurs. Nous vous prions de croire à l'assurance de nos sentiments les meilleurs. Qu'est-ce qui tombe quand je parle? C'est les sentiments. Programme Musica Ficta de Henri Four, interprété par Henri Four, piano. Concerto pour tour électrique et orchestre de Henri Four, la deuxième pièce. Musique cérébrale.
Avec chute de projecteur.
Avec chute de projecteur. Racines de Pierre Bernard. Pour bande. Ah. Et Conga par Pablo Cueco. Musica Ficta 3 de Henri Forest. Le 2, il a disparu. Sol de Pablo Cueco. Ces deux pièces composées pour l'ensemble Pays Paysages seront exécutées. Vous notez la subtilité. Par Paul Dubuisson, piano. Jean-Michel Ponty, vieille. Une faute encore. David Rueck, saxophone. Myrta Pozzi, Benoît Morlaine. Elle joue du Benoît Morlaine. David Rueck joue du saxophone et Myrta Pozzi du Benoît Morlaine. Et Jos Carlos Dalgalarondo, percussion.
Sol. C'est la pièce de Pablo qui a, c'est la pièce qui a été créée lors du concert du Zerchaner à l'église.
Ah oui. C'est le soir où on est allés tous manger avec Cueco et tout ça.
Après le concert.
Après le concert, c'est, enfin, c'est la même fois.
Oui.
T'avais rien enregistré là ?
Si, si, justement, j'ai des bandes, oui. C'est désagréable ce synthétiseur là. Faut le couper, hein.
Ouais.
Enfin, ça fait rien, bon, on va le couper tout à l'heure. Tu. Ah oui, oui, attends.
Tu nous les as fait écouter, ouais, ces bandes ?
On verra tout à l'heure, c'est senti. Voilà, donc je crois que c'est celle-là. Donc, je vais le positionner. Voilà. Ah oui, mais justement, il y a deux enregistrements distincts. Le premier, c'est l'enregistrement du repas qui a suivi le concert.
Ouais.
Et il y a une deuxième bande avec... oui, c'est un autre repas où était Bersosa. Je me souviens bien. Bon, on va écouter la première. Hein. J'envoie la première.
Le fascisme est un extrémisme du centre.
Et exactement. On la voit jamais, sa femme ?
Ben non. Ça, c'est une des grandes erreurs que d'imaginer que le fascisme est de droite. Le centrisme, le fascisme est du centre. Ce qui suppose la médiocrité et ce qui suppose une sorte d'indécision qui est tranchée par une idéalisation.
Le fascisme est du centre.
Le fascisme est du centre. Pas du centre de la France, mais du centre.
Ah bon.
Sociologique. C'est un extrémisme du centre.
Et qu'est-ce qu'il y a à la droite alors ?
Il n'y a rien.
À la droite, il y a le conservatisme. Conservatisme dans la.
Royaliste ?
Non. Le conservatisme a une fonction essentielle sur le plan fantasmatique. C'est de faire croire que le passé et l'avenir, c'est la même chose. Autrement dit, il n'y a plus d'angoisse de la mort parce que tu t'imagines que tu es complètement... Alors, le déjà-mort, ça peut être une des conclusions que tu en tires si tu te places d'une manière polémique par rapport à ça. Mais si tu rentres dans le projet, c'est vrai que c'est complètement sécurisant. Parce qu'il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de prise en considération de l'avenir parce que c'est le passé qui est l'avenir. Et ça, c'est le conservatisme.
C'était pas mal, ça. Écoutons la seconde. Je vais... Un peu plus loin. Voilà.
J'entendais Saint-Prin aujourd'hui dire des choses très...
Jorge.
Assez bien là-dessus. Il disait... Il faut admettre, enfin je ne vais pas faire sa citation, mais il faut admettre que quand on agit, on peut agir tout en sachant que c'est pour deux situations parfaitement contradictoires. Par exemple, au moment de la guerre d'Espagne, il dit que c'était une guerre juste, lutter contre le franquisme, une guerre juste, absolument. Mais il fallait savoir, et on pouvait en faire l'analyse, que si à ce moment-là, le franquisme n'avait pas gagné, l'Espagne devenait un terrain d'essai du communisme international, c'est-à-dire l'Espagne aurait pu être la première démocratie populaire. Donc si on sait ces deux choses, il faut quand même choisir d'obéir à la voie juste. Alors ça se discute.
Non, ça se discute surtout quand je n'avais pas a priori qu'est-ce que serait une démocratie populaire à cette époque.
Oui, bien sûr. Sur l'analyse après coup, oui, non, mais il y a des gens qui font l'analyse après coup, il y en a beaucoup à gauche, j'ai vu les gens du Nouvel Observateur l'autre jour, faire l'analyse après coup de « Ah, on a eu... » Enfin, ils ne le disent pas, mais ils sont malheureux d'avoir été favorables d'avoir été de gauche face au Vietnam, d'avoir été de gauche face à ceci.
J'ai entendu justement l'autre jour, Daniel.
Oui.
Tu l'as entendu? Tu l'as vu? Oui. Non, il disait qu'il ne regrettait pas d'avoir...
Non, il l'assumait, mais c'est une...
On ne pouvait pas savoir à l'avance comment ça allait évoluer après.
C'est une pensée qui traverse la gauche. Et ça, c'est une pensée très néfaste. On ne peut plus rien faire.
Mais exactement. S'il faut qu'il prévoit déjà à l'avance comment ça va évoluer les pays après une révolution, donc ce qui est important, c'est ton choix moral, c'est en fonction de la justice du présent. Bon, voilà.
En ce moment, il y a des énergies en présence, il y a des forces en présence, il faut faire un choix. Aujourd'hui, il y a les Kanaks qui sont chez eux, qui veulent leur indépendance, qui ont ramassé les coups
de pied.
Il n'y a aucun doute possible.
Mais c'est évident.
Et la France de gauche va encore faire les mêmes conneries.
Ah, mais ça c'est sûr. C'est pas la fin de gauche. C'est un gouvernement de gauche dans un pays qui malheureusement n'est pas de gauche. majoritairement. Il n'était pas non plus au moment des élections.
Premier tableau, Cueco et les films d'Ozu, où l'on entend un cinéaste espagnol nommé Berzosa disserter avec notre héros du cinématographe japonais autour d'une bouillabaisse.
Les gens qui ont du génie, ils sont absolument incapables d'être vulgaires. Ils ne peuvent pas.
Mais c'est,
quoi qu'ils fassent.
Chez Ozu, il y a beaucoup de choses.
Mais chez lui, il y a ça. Et chez les Japonais, il y a beaucoup de ça. Hein.
Oui, il n'y a pas de peur de ça, c'est vrai.
Ils n'ont pas peur, mais ils n'ont pas peur des ridicules. Ils n'ont pas peur des ridicules.
Les ivrognes, par exemple, ça pourrait être grotesque. Et les deux plans, le plan où les deux types sont côte à côte, c'est extraordinaire. De simplicité.
Les ivrognes, là, quand ils reviennent, mais on n'a même pas envie de sourire. C'est tellement dramatique, c'est tellement tragique.
Mais ce qu'il y a de plus fort peut-être dans ce film, moi qui m'a beaucoup frappé hier soir et qui est peut-être très japonais, c'est que tout ce qui est de l'ordre de la complexité est dans le non-dit, c'est-à-dire le dit est simple et le non-dit est complexe.
Ce personnage, la voisine qui revient à deux reprises, c'est génial. Qui dit il fait beau, il fait pas beau, il fait.
Les gens disent échange des propositions ordinaires, comme si c'était dans la vie courante, presque ici, à la limite, parce que c'est du quotidien.
Non, mais c'est très japonais.
Et tout se charge de complexité parce qu'on sent très bien, par exemple, que la dureté de ces enfants qui reçoivent mal les parents est une dureté qui n'est pas la leur, qui est une dureté qui a été le fait de leur transformation dans la vie sociale. C'est une critique
par
de la
exemple,
vie sociale.
Le petit-fils qui dit mais où je vais travailler, etc., qui a cette dureté. C'est quand on sait la condition,
les parents ne disent jamais rien et pourtant ils sont
souffrent
ils sourient et ils souffrent comme des animaux. Ils ont tout compris, mais ils ont compris tout dans le coup. Ils ont tout compris, ils ont compris qu'ils étaient repoussés, mais ils ont compris aussi dans quelles conditions sociales les enfants étaient, pourquoi ils sont repoussés. Ils sont même allés au-delà, ils l'ont même intégré dans une conception générale de la vie. C'est-à-dire que...
Non, il y a une chose extraordinaire chez les Japonais, c'est la pudeur et la courtoisie.
Oui, mais alors là, comment ça arrive à produire de la violence à partir de la banalité? Je crois que c'est la force. Une chose
parce qu'on sent que c'est le désir de ne pas blesser l'autre. Je crois que c'est ça, cette banalité.
Oui, mais ça crée une contradiction entre ce qui est dit et montré, qui s'écoule lentement et qui est de la courtoisie, et qui est là pour porter de la violence. C'est ça qui est extraordinaire. C'est la charge de violence. Les sentiments sont violents. C'est violent dans le sens où les vieux sont blessés, souffrent, sont déçus d'abord de Tokyo, déçus par la situation de leurs enfants, déçus par les sentiments des enfants. Et pourtant, toute la scène qui est montrée est une scène qui ne dit rien, ni cette déception, ni cette violence. Simplement, elle dit les choses
parce qu'ils ont coupé.
C'est d'une beauté. Oui, mais dans le cinéma, c'est d'une beauté.
Et Ijor, qui est très très belle aussi, c'est la
façon. Ça veut dire que le dit soit non dit, c'est ça qui est magnifique.
Comme quand il va voir les copains de Sivrogne, là, et c'est lui qui a son fils qui est contremaître à la place, parce qu'il a dit qu'il est directeur de l'imprimerie, il dit qu'il est contremaître de l'imprimerie. Comme il diminue la réussite de ses enfants, ou il augmente l'échec de ses enfants devant l'autre, pour ne pas le laisser. C'est super.
Tu dis les ivrognes, mais c'est pas si exceptionnel. Tu sais, c'est presque tous les soirs que les hommes, tout seuls, entre eux, vont dans les auberges, boire ensemble, ils rentrent chez eux seulement après. C'est très coutumier.
Non, je ne dis pas qu'ils soient exceptionnels.
Oui, non, mais tu dis ivrogne. Ils ne sont pas vraiment ivrognes, c'est très répandu.
Non, enfin, c'est...
Non, mais là, c'est une scène d'ivresse.
Oui, là, c'est une scène d'ivresse volontaire. Ils se sont décidés, ce soir-là, à aller jusqu'au bout. Ils le disent, on va jusqu'au bout.
Vous êtes resté au Japon combien de temps?
Un mois. Mais le problème, qu'on a eu qui est très favorable à la connaissance d'un pays, c'est qu'on n'a pas été pris en charge beaucoup.
On n'était pas dans un hôtel,
on a été reçus très amicalement, mais on a été dans la rue obligé d'aller le jour et de rentrer le soir. Maison.
On a rencontré beaucoup de Japonais
pendant des journées ou bien des Français qui parlaient japonais tout seul.
Ou des Japonais qui parlaient français très bien.
Mais tu sais que j'ai eu l'occasion maintenant, j'avais un comédien japonais avec moi, mon tournage, un garçon très intelligent, très ouvert. Et il m'a appris une chose que j'ignorais complètement. On a beaucoup parlé.
Ça va être intéressant de savoir si...
Et que vous avez dû l'apprendre. C'est la multiplicité de langages qui existe au Japon.
Et des écritures aussi.
Oui, et des... C'est surtout le langage.
Le langage...
Suivant les niveaux sociaux.
Voilà, c'est ça.
La langue d'un inférieur, ouais, supérieur. Alors, d'une femme à un homme, d'un homme à une femme.
Oui. Mais vous le saviez avant d'y aller.
Non, on l'a appris là-bas. On avance.
Mais c'est quand même quelque chose qu'on sait pas. C'est pour ça qu'un occidental... il ne peut jamais apprendre le japonais.
Où il est, toujours, il parle toujours à tort et à travers.
Il parle comme vraiment comme un ignorant. Il n'a pas, il sait pas. Il,
oui, mais là,
il peut pas se situer, tu vois.
La
d'ailleurs, il est méprisé comme un autre personnage.
La multiplicité de ses codes fait qu'en effet, les Japonais
même ont.
Les Japonais ont tendance à rester courtois, mais à considérer que les Occidentaux sont inéducables.
Mais on est des brutes, c'est évident.
On est des brutes. Le mot veut dire à la fois étranger et brut. Le mot qu'ils emploient.
Barbare.
Veut dire
pour le roman aussi.
Oui, mais comment le mot, je rappelle jamais aussi.
Deuxième tableau. Kweko et la vie sauvage. De la physiologie de l'odorat et du comportement des serpents boa en appartement.
Non mais c'est typiquement, moi je crois que quand tu dis le rapport à la mort, c'est aussi parce que c'est le lieu de la perversion typique. Par exemple, la plupart des... Le problème qui est le problème qui est le plus difficile, même à... intégré intellectuellement, c'est que c'est la proximité des organes qui ont à la fois qui servent à une fonction sexuelle et une fonction biologique, enfin de défécation, excrétion. Et cette proximité, le même usage des mêmes organes produit des problèmes qui sont soit dans l'ordre de la perversion, soit dans l'ordre de la séparation totale, c'est-à-dire du refus complet. Et je pense que ça, c'est là le territoire même du refus excessif, ou au contraire des perversions, c'est-à-dire des passions, du passage de l'un à l'autre, c'est-à-dire de la confusion. Oui. Le pervers parfait, c'est celui qui prend son plaisir sur le territoire où il ne doit pas le prendre. Oui. Le pervers parfait, c'est ça, c'est le déplacement du plaisir. Donc c'est là que ça se situe. Non, mais qu'il y a le rapport à la mort, bien évident, mais c'est...
Mais il y a d'autres odeurs, la transpiration en général, qui ne vient pas nécessairement des parties sexuelles... Les odeurs de la sueur, la laine, ou même les nez, il y a des gens qui sont...
Oui, mais alors, il y a d'autres... Non, mais il y a des faits...
Non, mais on ne supporte pas.
Le métro, c'est un lieu d'odeur.
Oui, c'est vrai.
Mais tellement moins qu'on
ne
peut. L'odeur des enfants, c'est incroyable.
L'odeur des enfants.
Oui, c'est des enfants qui sont restés pendant 2 heures dans une classe, tu vois.
C'est extraordinaire.
C'est compact, hein.
Les vieux, c'est pas bon non plus.
Le vieux.
Les autobus du troisième âge. Moi, je suis monté dans un train du troisième âge une fois.
Ah bon ?
Faire un voyage, c'était quand même un peu.
Peut-être
que j'étais le seul à être sale parmi eux, d'ailleurs, parce que c'était peut-être mes propres odeurs qui apparaissaient. Mais ça m'avait paru.
Non, ben, enfin la plupart des odeurs, je crois, qui ont comme origine une forme de pourriture.
Mais c'est une pourriture.
Pourriture, non, l'odeur, ça. L'origine des odeurs. Oui. Et cette pourriture annonce la mort. Et la mort, quand ça vient d'un chien ou d'une vache ou d'un poisson,
mais
est désagréable, mais n'est pas aussi.
D'ailleurs, la première
une transformation chimique. À ce moment-là, la cuisine, c'est de la pourriture.
Ça peut venir d'odeur.
Et le vin aussi, alors.
Ça vient pas, c'est pas du
tout. Non, il parle des odeurs corporelles. Les odeurs corporelles, la transpiration, dans son premier état.
La transpiration, c'est pas une odeur de pourriture. C'est une odeur. C'est une odeur.
C'est une étape qui va vers.
De la force physique.
Les odeurs, que ce soit la sueur, n'importe quelle sécrétion de mucose, enfin n'importe quoi, les sangs, simplement les sangs qui donnent des blessures.
Oui. Toute expression, si tu la laisses en place. Le problème, c'est ça, toute expression, si tu la laisses. Si tu la laisses dans le lieu où elle se produit,
ça pourrit.
Elle a tendance à s'autodétruire.
Ça commence à s'oxyder.
C'est des bactéries qui la détruisent et les odeurs.
Et les odeurs viennent.
Cette destruction-là, c'est tout. L'odeur qui devient d'un seul coup acide.
Les excréments, l'urine, n'importe quoi. Il y a un processus de.
La merde fraîche ne sent pas mauvais, mais c'est après.
Oui.
Que ça se gâte.
Oui, mais oui.
C'est comme le vin.
Comment ?
Il y a des pourritures.
Non, mais il y a un processus de pourrissement qui commence.
Le roquefort, par exemple.
Et il y a des pourritures nobles, le sauterne, par exemple. Le roquefort.
Oui, toute cuisine.
Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec le corps. Ça n'a rien à voir avec le corps.
Mais c'est un processus de mort.
Mais les camemberts.
Qui ne paraît pas être un processus de destruction, c'est un processus de transformation.
La notion de pourriture noble est intéressante.
Si.
C'est intéressant.
Si tu veux.
Surtout en ce qui concerne.
Non, mais je suis persuadé que c'est ça qu'on ne peut pas supporter.
Tu peux pas ouvrir
l'odeur,
c'est
ça. Parce que l'odeur, on le supporte.
Les odeurs, aucune odeur ne gêne pas.
Mais je fais le plan de la bougie.
Les odeurs chimiques.
Ce qui est quand même pas très clair, c'est en effet là. Mais il y a probablement des éléments qui tiennent à la survie, mais c'est la crainte qu'on a des excréments de l'autre. Par exemple, la souillure. L'idée de la souillure, c'est être couvert, conchié, par exemple.
Mais quand même, dans l'histoire, ça a dû se métamorphoser, parce qu'autrefois, on supportait les odeurs incroyables, d'après ce qu'on décrit. Et les gens n'en avaient pas l'air d'en souffrir outre mesure. C'est très culturel.
Vraisemblablement. Jusqu'à une limite, c'est culturel. Mais il y a des endroits où on pénètre quelquefois. Vous avez beau dire que c'est culturel, dans des chiottes de bistrot, vous pouvez dire que c'est culturel, il y a un seuil, c'est plus culturel, on ne peut pas percevoir autre chose.
Je veux dire, ça
influence la vue, ça influence la marche, ça influence les gestes, c'est compact. Alors, quand ça pique les yeux, comme il dit, il a raison.
Ah oui, ça c'est l'ammoniaque.
Oui, alors il y a des limites, il y a des seuils, mais il est probable que ce qui est culturel, c'est le déplacement de ce seuil.
Mais est-ce que tu sais si les armogènes seront
mais la répulsion,
par exemple,
non, mais parfois, une question physiologique. On est blessé parce qu'il y a des odeurs acides.
Le bon petit jour.
Mais comment se fait-il qu'il y en ait aussi qui ne supportent pas certains parfums portés par les femmes qui sont très forts, mais il y en a qui les respirent comme de mauvaises odeurs qui
enlèvent mal. Alors là, vous touchez tout ce qu'on a dit tout à l'heure.
Le santal, le fantasme qui est lié, de la vie qui est
inconsciente, qui est lié au parfum.
C'est
le parfum de la dame.
Qui est utilisé comme parfum, l'odeur de santal. Quand on sent le bois de santal, enfin, c'est une odeur qui est très prisée dans tout l'Orient, etc. Le santal est vendu au gramme, enfin bon, c'est un bois précieux, sacré, etc. Eh bien, si vous sentez l'urine de chamal qui est tant décriée, on dit c'est horrible, etc. Si c'est à très petite dose, l'urine de chamal, c'est exactement...
Est-ce que c'est du chamal ?
Du chamal.
Je croyais que c'était un animal qu'on appelait le chamal.
Du chamal. Parce que l'odeur d'urine de chamal n'est pas la même odeur que l'urine de chamal. L'odeur d'urine de chamal à très faible quantité, un certain seul, c'est exactement l'odeur du santal.
Oui, peut-être, c'est une question de
seuil. Oui, c'est une question de seuil, là.
Tout ça, c'est une question de quantité.
Oui, c'est vrai.
Moi, l'odeur n'est plus ce qui est un peu à l'opposé, je vous ai dit, des odeurs humaines. On n'a rien d'humain. Mais l'odeur, l'odeur que je n'ai jamais perçue, c'était un serpent qui avait commencé la digestion dans
qu'est-ce qu'il avait bouffé, ce
cochon d'Inde.
Un cochon d'Inde. Il avait commencé la digestion. Et il a rendu à peu près une semaine après.
Il a demandé son temps quand même. Et c'était quelque chose, je n'ai jamais senti une chose ouais. répugnante. Mais vraiment être malade, oui, être malade.
Comment, ce que ne dit pas ton histoire qui l'a rentré dans ça, c'est comment vous fréquentez des animaux comme ça vous, d'une manière courante.
Domestique, oui.
Oui, tu étais donc, tu avais un serpent comme ça.
Oui, non, enfin, c'est pas, c'est mon fils, c'est mon fils.
Et qui avait un serpent, un gros serpent.
Oui, il en a beaucoup, oui. Et il avait avalé, et un des serpents avait avalé, et il avait fait une mauvaise digestion. Quand il fait une mauvaise digestion, ça dure peut-être 2, 3 ou 4 heures.
Il a des serpents, il a des serpents où chez lui.
Oui, dans la chambre.
Mais des boas, des machins comme ça.
Des boas seulement, oui. Le piton maintenant, il va avoir des boas.
Ma soeur a eu un animal comme ça.
C'est quelle odeur.
Dans sa chambre. Et lui, il se porte bien.
Les boas.
Non,
ton fils. Ah oui.
Non, mais il supporte bien l'odeur. Toi, tu dis que tu la supportes pas.
Ah non, mais moi, c'était une chose. Non, ça sent évidemment un peu comme les.
Mais là, c'était exceptionnel.
Un peu comme la n'importe quel jardin.
Le boa de ma soeur, les voisins d'en dessous, ne supportaient pas parce qu'ils se mettaient dans les.
Mais ça supporte pas, là.
Dans le sommier du lit du petit.
Les bois avaient avalé.
Et quand il. Quand il tombait, ça faisait un bruit que les voisins d'en dessous n'arrivaient pas.
Et il a commencé la digestion.
Et alors, ils sont montés dans
l'est. Il a rendu une semaine, 10 jours après.
Une chose qui était inidentifiable.
Il était pas,
et après, ça devrait bien supporter quand ils
ont ce sujet. Non,
c'est encore pire.
Troisième tableau, Cueco et la mode, où il est démontré que l'habit ne fait pas le Cueco.
Moi j'aime assez les vêtements délabrés en fait, les vêtements.
Oh mais ça peut être très chic. Hein.
Pendant mon cas.
Tu prends un couteau, une fourchette, une petite cuillère, ce que tu veux. Et tu passes à ton voisin. Et
ça se mange pas.
Ça, non, que
ça
soit
rouge, non
que ça puisse être. Je trouve que chic est trop fort, mais que ça puisse être une stratégie, j'en doute pas. Ça,
c'est non, il n'y a pas une stratégie.
Si, si, moi je dis.
Non, mais ça peut être une manifestation des goûts, simplement.
Ça, c'est trop. Pour moi, ça. C'est plus compliqué, je pense. Que...
Sûrement que ça va être compliqué.
Michel, ça. Michel,
le Bresse. En fait, j'aime bien les vêtements.
Le Bresse.
J'aime bien les vêtements qui cachent la personnalité des gens, qui ne la traduisent pas. J'ai passé toute ma vie comme ça, bâtiment, avec une sorte de d'orgueil d'être autre chose que mon apparence. Donc peut-être je continue. Ah, parce qu'il n'y avait que cet orgueil qui me tenait. Sinon, mon apparence était une apparence que je n'aimais pas. J'aurais aimé être un bourgeois. Donc après, comme je me suis senti intellectuellement pas capable de m'identifier aux bourgeois, peut-être que j'ai maintenu cette stratégie.
Mais tout franchement, je ne sais pas si tu aimes les vêtements plus ou moins usés.
Dégueulasse, oui.
Mais de tout franchement, tu n'es pas habillé d'une façon dégueulasse. Tu ne peux pas t'en empêcher de ne pas t'habiller d'une façon dégueulasse.
Oui, non, mais là, ce soir, on m'a habillé non. Chez moi. Quand on sort, on m'habille.
Non, t'as peut-être lavé. On t'a lavé, peut-être.
Non, je me suis lavé.
On t'a lavé.
En général,
la famille doit s'occuper du côté hygiénique de la chose.
Non.
Ah, oui. Enfin, la famille proteste. Au bout de quelque temps, la famille proteste. Elle se dit incommodée.
On ne l'habille pas, mais on achète ses vêtements.
Ah non, ce soir, je suis exceptionnellement bien habillé, je suis chic.
Non, tu n'es pas chic, tu es très bien habillé. Non, on n'utilise pas des adjectifs comme ça un peu sardoniques.
Je croyais que j'étais chic, moi.
Non, tu es très bien habillé.
Enfin, moi, je crois que tu étais dans la vie.
Oui, j'ai des vêtements qui sont très beaux, ça, c'est vrai.
Mais ils sont révélateurs d'un goût et d'une culture, beaucoup de choses.
Mais alors, ils ne sont pas choisis par...
Oui, mais je suis mal à l'aise, parce que ce soir, je n'ai rien à cacher. Ma culture, mon bon goût, tout est visible.
Oui, voilà.
Je suis obligé de faire croire que j'ai mauvais goût. Tu vois, je suis obligé pour renverser.
Oui, mais je crois que là où il y a la conscience, il n'y a pas de mauvais goût. Il peut y avoir de la provocation, il peut avoir... Mais le mauvais goût, je crois qu'il a besoin de la conscience. Hein. Ouais. Tu es conscient.
J'ai passé à la télévision, j'exposais dans une galerie rue Bonaparte. Et le type qui faisait, oui, c'est une histoire qui a fait de l'usage, mais elle m'a coûté quand même une paire de chaussures. Le type m'avait dit, je vais filmer vos tableaux, vous venez. C'était la première fois que je passais à la télévision. Alors dans mon village, tout le monde était.
Qui était les...
Je me souviens pas du type qui a fait pendant longtemps les.
Oh, c'est le mec
qui a fait pendant longtemps les émissions sur
la peinture. Pas Chapuis.
Non, c'est pas Chapuis, c'est la radio Chapuis.
Non, mais Chapuis l'a fait aussi des émissions.
De télévision, oui, c'est vrai. J'avais tourné peut-être dans une.
Bon, enfin,
qu'importe.
Bon, c'était un mec qui
faisait. Lui, il faisait les émissions en journal toutes les semaines.
Ah oui, les oui, okay.
Petit barbu.
Il est décédé, oui, il y aura.
Il est décédé ?
Je crois.
Enfin, il l'était déjà, sûrement. Bon.
Oui.
Alors, il me fait venir et il me dit : vous savez, vos tableaux sont difficiles à filmer, ils sont noirs, c'est difficile. Mais enfin, vous allez venir là, alors. J'avais acheté des chaussures toutes neuves pour être bien dans la... J'avais pensé moi aussi que la base de tout c'était la chaussure. Alors il me faisait marcher le long du caniveau, comme ça, et il filmait et je parlais. Et ça a donné ça, mon passage à la télévision que tout le village attendait. On a vu mes godasses, en gros plan, qui marchaient le long sur la petite bande qu'il y a au bord du caniveau. Et il disait « un peintre qui pas à pas se cherche ».
Henri Cueco, né à Uzerche, Corrèze, le 19 octobre 1929. Étude au collège local jusqu'au BEPC. Premier enseignement artistique reçu dans le milieu familial. Le père, alors peintre en bâtiment, est un ancien élève de l'école des Beaux-Arts de Valencia en Espagne. Principales activités. Peintre, lithographe, décorateur de théâtre, animateur culturel, enseignant de lycée et faculté, écrit et travaux théoriques.
Je ne sais plus sur quel sujet, mais si tu me reposais les mêmes questions, je te dirais des choses
tout à fait différentes.
Tout à fait différentes, mais je les assume.
C'est bien.
Oui, d'ailleurs, je ne te reposerai pas les mêmes questions.
Parce que toi-même, tu es le plus dans la situation de reposer les mêmes.
Non, il repose d'autres questions.